BFM Business depuis le Salon mondial de la défense et de la sécurité. BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 18h15, on est de retour ici à Villepinte au Salon Euro Satori édition 2024. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à
Audrey
tous.
Audrey Tcherkov bien sûr avec nous jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. Pascal Samama est avec nous, journaliste BFM Business qui suit ses questions de défense au quotidien. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Jean-Baptiste Tuès sera un petit peu avec nous et puis on accueille notre premier invité, c'est Jean-Marc Duquesne, le directeur général du J4 qui est avec nous ce soir. Bonsoir Général.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, merci.
Le J4, groupement des industries françaises de défense et de sécurité aéroterrestre. Merci d'être avec nous pour ouvrir ces deux heures d'émission, pour planter un petit peu le décor. Bah, le décor, c'est déjà ce qu'on voit sous les yeux, c'est-à-dire un salon où à 18h et quelques minutes, il y a encore du monde. C'est un salon qui fait le plein. On est en termes de, pour te redonner quelques chiffres, en termes de records de fréquentation
bien sûr,
cette année.
Nous avons un salon où nous avons déjà eu plus de 85 000 visites en 3 jours, c'est-à-dire déjà plus que les 5 jours du salon précédent. C'est un salon où nous avons plus de 20 000 exposants du monde entier, avec plus de 40 pavillons nationaux, 60 pays représentés, et une diversité de production tout à fait considérable.
Bah oui, retour record absolu, parce que le contexte, on va le poser ensemble. Regain de tension à travers le monde, guerre en Ukraine, guerre sur le sol européen, regain de tension au Moyen-Orient, au Sahel. Donc on vient en nombre évaluer, regarder les dernières innovations finalement, ce qui se fait aujourd'hui, Jean-Marc Duquette.
Écoutez, ce salon est un salon donc professionnel qui a de grandes caractéristiques de présenter tout ce qui se fait actuellement en France, en Europe et dans le monde entier. Et tout visiteur peut voir 1, 2 ou 3 solutions aux problèmes qu'il rencontre. Et c'est son exhaustivité qui fait sa force et qui en fait le premier salon mondial dans notre domaine.
Et oui, alors donc, vous le disiez, avec un record en termes de nombre de visiteurs, mais aussi de délégations étrangères, on comprend bien pourquoi, au vu du contexte international. Est-ce qu'on peut dire que le ton, évidemment, s'est durci il y a 2 ans avec le début de l'offensive russe en Ukraine et puis avec un président de la République qui, dans son discours, Emmanuel Macron, rappelez-vous, incitait les industriels français à se remettre en mode économie de guerre. Donc ça veut dire recommencer tout de suite à produire plus vite, plus fort et à moindre coût. Comment ça s'illustre ça cette année sur le salon ?
Eh bien écoutez, ça s'illustre d'ailleurs par les productions qui sont montrées que dans tous les domaines, que ce soit des drones, que ce soit dans la robotique, pour ce qui est le plus visible, mais bien aussi mais dans le monde du numérique, avec les changements considérables que l'on peut voir dans le monde, par exemple, de l'intelligence artificielle, qui là aussi, Eric, on a eu d'ailleurs lundi, lors d'une inauguration, une journée, une après-midi qui a été consacrée notre agence de l'innovation en matière d'intelligence artificielle qui a pu présenter un certain nombre de produits. Donc là, quand le président de la République en 2022 a parlé d'économie de guerre, ça a été un peu un électrochoc de façon, et donc l'industrie de défense s'est mise en marche, à virer de façon à pouvoir répondre à cette attente. Deux cas concrets, par exemple Nexter, KNDS maintenant, qui produit le canon César, qui est très utilisé par nos alliés ukrainiens. Ouais. En 2020, on produisait 2 par mois, il fallait 30 mois pour le faire. En 2024, c'est 8 par mois, il faut 15 mois pour le faire. Eurenco, qui est en face de nous, qui produit de la poudre, le président a inauguré la première pierre d'une usine qui va permettre de retrouver une certaine autonomie stratégique dans ce domaine.
Et l'économie de guerre, Pascal, je vous poserai la question après, bien sûr, Jean-Marc Duquesne. L'économie de guerre, c'est sur un spectre de matériel très très large. Est-ce que 2 ans après que le président ait lancé cette expression, est-ce qu'on est rentré dedans ou pas du tout encore, Pascal,
Comme le disait M. Duquesne, évidemment qu'on est rentré dedans. Les fréquences de production ont accéléré.
Le discours a changé, mais dans les faits, est-ce que véritablement on a amorcé quelque chose?
KNDS, Nexter produit beaucoup plus. Arcus innove et sur fond propre lance des nouveautés technologiques comme le robot qu'ils présentent sur leur stand. Ouais. Chaque fournisseur, chaque producteur de systèmes de défense a pris conscience que non seulement qu'il y avait des guerres possibles et donc qu'il y avait des contrats possibles, mais aussi que la concurrence était mondiale. Il y a une économie de guerre, mais comme le dit le patron de KNDS, France, il y a aussi une guerre de l'économie et une concurrence qui est assez importante entre constructeurs.
Oui, alors juste, sauf que quand même, pour se mettre à produire plus et à reconstituer des stocks, bien évidemment, il faut avoir de la trésorerie. Donc j'imagine que tous les acteurs du secteur, en tout cas en France, ne peuvent pas le faire.
Alors, il y a plusieurs aspects,
plusieurs aspects à
prendre en compte. Vous avez raison, il y a la problématique de financement. Le problème de financement, eh bien, c'est le soutien que nous apportent nos banques et le problématique de l'investissement par le biais donc des fonds d'investissement. C'est un sujet important et avec lequel nous travaillons parce qu'il peut y avoir un manque de financement. Le deuxième point important, c'est la guerre des talents. Le problème de l'industrie actuellement en France, c'est de manquer d'ingénieurs, manquer de techniciens, manquer de compagnons. L'industrie de défense n'échappe pas à ce constat. Je prends un exemple très simple dans mon domaine. Globalement, l'industrie de défense terrestre, c'est 50 000 emplois. Il nous manque en général 5 000 emplois qui ne sont pas pourvus.
Ah oui, c'est énorme.
Donc voilà les enjeux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin de la semaine, nous faisons une tente des métiers, jeudi et vendredi, et spécialement vendredi, où tous les jeunes qui sortent d'école, d'ingénieurs ou autres, peuvent venir voir, se renseigner sur ces métiers. Ouais. Et nous faisons ça aussi avec France Travail.
Alors, l'économie de guerre, c'est, on en parlait, la question des industriels, évidemment. C'est aussi la question des États. On voit que les budgets militaires ont commencé à réaugmenter en Europe. On est à 2%, ce qui est l'engagement, la volonté de l'OTAN, 2% du budget consacré à la défense. Est-ce que vous dites, une question un petit peu sensible, dans un monde idéal, dans un monde incertain plus précisément, il faudra peut-être apprendre à aller un petit peu plus loin finalement. Comment est-ce que vous regardez ce sujet, vous, aujourd'hui ?
Là-dessus, l'industrie de défense s'adapte aux choix politiques.
Si jamais il se passe des choses dans quelques mois du côté de l'OTAN, vous voyez un petit peu ce que je... voyez.
L'industrie de défense s'adapte aux choix politiques. Hein, ouais. Et donc, nous avons demandé d'accélérer, nous avons accéléré. L'important pour nous actuellement, c'est de s'intégrer dans cette dynamique nouvelle de relocalisation, de produire plus, comme vous l'avez dit précédemment. Et nous disposons actuellement de cette loi de programmation militaire qui est comme une caractéristique française. C'est quoi une loi de programmation militaire ? C'est une visibilité sur 5 ans. Donc on dit aux industriels, globalement, vous allez avoir cet argent-là pour les 5 ans à venir.
Pascal,
Sur les 2% demandés par l'OTAN, les 2%, c'est un seuil, hein. C'est le minimum que réclame l'OTAN. Il y a déjà des pays d'Europe, il y a la Pologne par exemple, qui ont dépassé les 3%. La France compte dépasser dans les 2-3
années. On précise juste, Pascal, c'est 2% par rapport au PIB du pays en question.
Oui, c'est 2% du PIB, oui, exactement. Qu'on consacre à l'industrie de défense, à sa défense en tout cas. Il y a des pays européens qui ont dépassé, bien sûr, les pays limitrophes de la Russie qui se sentent bien plus menacés que nous pour l'instant. Mais la France compte aussi dépasser de très loin les 2%. On a déjà atteint les 2% en 2024.
Oui.
On les aura dépassés en 2025.
Alors, parce que ça, c'est sur le périmètre français. Si on regarde le périmètre européen, on comprend bien que l'Europe, elle doit combler des pans entiers de défense qu'elle a délaissés. Enfin, je pense qu'il faut le dire. Ce matin, le général Baudouin disait on a trop de blindés de toutes sortes et pas assez de missiles solaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Je pense que le constat a été fait que l'Europe, si on compare avec les États-Unis, qui ont deux, trois types de blindés. L'Europe, pour le même type de blindés, on a 8. Donc on voit bien qu'il y a un effet d'échelle qui ne joue pas en Europe et qui est important d'y arriver. D'où la nécessité d'une concentration européenne de façon à ce que les séries soient plus longues, que l'ensemble des pays européens puissent commander les mêmes types d'engins de façon à ce qu'il y ait une interopérabilité, qu'il y ait une mutualisation qui soit possible. Donc ça, c'est vraiment un axe. Deuxième chose qui me semble important aussi, c'est que nous avons nos budgets français ou de chacun des pays, mais il y a aussi la dynamique européenne et tout ce qui s'est fait en direction à la fois de la préparation de l'avenir, c'est quoi les moyens, les engins dont nous avons besoin et les solutions dont nous avons besoin pour faire face aux menaces futures. Mmh. Et ça, nous avons le Fonds européen de défense qui nous aide dans ce domaine. Et puis nous avons, vis-à-vis de l'Ukraine, tout ce qui s'est fait pour les aider en matière de munitions avec un fonds qui s'appelle ASAP, doté de 500 millions, de façon à faciliter l'achat de ces munitions.
Oui, mais alors, sauf que quand même, ce Fonds européen de défense ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, parce que quand on regarde les stratégies nationales, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Belgique, que ce soit la Finlande, personne n'achète à la France, tout le monde achète aux États-Unis.
Alors c'est un des problèmes.
Les avions, je parle, oui.
C'est un des problèmes, et c'est la France le dit et redit actuellement, c'est que les fonds européens, les fonds de l'Europe doivent aller en direction des entreprises européennes. Et ça, c'est un vrai sujet que vous avez raison de souligner, que c'est un des combats de la France à Bruxelles, de façon à ce que l'ensemble de ces moyens soient redirigés vers ce qu'on appelle une sorte base industrielle et technologique de défense européenne et que ces moyens financiers permettent de la consolider. Dans cette, notre ami nous le disait tout à l'heure, la compétition est mondiale et il est important que l'Europe se muscle de façon à faire face à cette compétition mondiale.
On voulait parler un petit peu de l'offre. Alors on a traversé les quelques coursives du salon Eurosatory. On a vu on voit des chars à quelques dizaines de mètres de nous. On voit un énorme missile devant nous. D'un grand acteur français qu'on ne citera pas. Non, on voulait parler un petit peu des drones notamment, parce qu'on a regardé les chiffres. Il y avait 70 exposants fabricants de drones présents au dernier salon. Il y en a 120. Ça a quasiment doublé en l'espace d'un an, Pascal.
On s'est quand même rendu compte. Le drone, avant la guerre en Ukraine, on savait que c'était un danger, que c'était un élément de la guerre hybride. C'était l'arme des armées pauvres. Aujourd'hui, c'est une arme qui est devenue quasi conventionnelle. Oui. Et un drone, c'est un engin qui sert à plein de choses, qui sert à prendre du renseignement, qui sert à surveiller, mais qui est devenu aussi un engin, une munition, ce qu'on appelle aujourd'hui une munition téléopérée. Ouais. Un drone kamikaze qu'on disait il y a quelques mois ou quelques années, ce qu'on appelait drone kamikaze, c'est une munition téléopérée. Et on se rend compte quoi, avec la guerre en Ukraine, que pour sauver des vies humaines, pour épargner des obus, pour épargner des engins très coûteux, et ben le drone était la meilleure solution. Mais qui dit drone dit aussi système anti-drone, parce que non seulement il faut en avoir pour attaquer, mais il faut en avoir avoir des systèmes pour s'en protéger.
Ça dit quoi de ce qui se passe, la façon dont évoluent les choses sur le terrain de guerre aujourd'hui, Jean-Marc Duquesne, finalement?
Je suis entièrement d'accord avec votre appréciation. C'est un facteur de changement important au plan opérationnel l'emploi se multiplie, dont les possibilités d'emploi se multiplient, comme ça vient d'être dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le ministre a signé, lundi matin lors de sa visite, un pacte drone. C'est un travail qu'on a fait pendant plus d'un an entre les industriels français, et nous avons de nombreux industriels français qui sont des dronistes de qualité, avec qui qui ont d'excellents contacts avec nos amis ukrainiens qui nous font le retour d'expérience du terrain et avec la délégation générale de l'armement. Mais je crois que ce qui est aussi important, c'est de bien voir que pour nos téléspectateurs et auditeurs, à quel point notre industrie est souveraine. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui équipent ces trois armées, terre, air, mer, avec des matériels produits en France.
Et espace.
Espace, exactement. Alors justement, parlons de la France et de son armée, parce que l'armée française, elle va présenter de son côté ses blindés, donc c'est les Griffons, les Jaguars, les canons César. Mais est-ce que la gamme de ces équipements qui est en plein renouvellement, est en adéquation avec la demande?
Alors,
parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit trou dans la raquette, non?
On ne peut pas parler de trous dans la raquette. Nous avons des chars Leclerc, mais qui commencent à avoir un certain âge. Et donc, se pose la question de leur renouvellement à horizon 2030-2035. Mais cela étant, je reviens ainsi sur, je vous ai parlé tout à l'heure de loi de programmation militaire. La précédente, de 2017 à 2022, a été qualifiée un peu de loi de réparation. C'est essayer de boucher les trous de 30 ans de désengagement budgétaire. Donc, d'un certain nombre de rustines qui ont été mises en place.
De désengagement budgétaire, là.
Comment ?
Vous parlez bien de désengagement budgétaire, vous assurez le terme.
Ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, à partir de 1990. Voilà, 25 ans. Là, maintenant, nous avons une loi de fabrication. Vous avez, l'armée de terre va se renouveler complètement par le programme Scorpion, qui est à la fois, je dirais, des engins, puisqu'on renouvelle des engins qui ont généralement 30 ou 40 ans d'âge. Mais surtout, je pense qu'il est beaucoup plus important, c'est un saut, je dirais, technologique et qualitatif par ce qu'on appelle le combat collaboratif. Ça veut dire quoi, le combat collaboratif? C'est d'avoir la capacité de voir sur le terrain, sur l'ensemble du terrain, y compris dans les zones cachées, et qu'on puisse être en permanence connectés entre nous. Et ça, c'est un saut tactique et opérationnel considérable.
Il nous reste quelques secondes, Jean-Marc Duquesne. On a parlé un petit peu de cette ligne de fracture entre ces Européens qui achètent Européens, ces Européens qui achètent, en ce qui les concerne, Américains. Certains achètent même en Corée, absolument. Est-ce que vous dites quand même, on parle de plus en plus d'Europe de la défense, est-ce que vous avez l'impression que véritablement ils se passe quelque chose de ce point de vue-là? Est-ce que l'Europe enfin commence à aller dans le même sens, à avancer dans le même sens sur ces questions européennes? Il y a des programmes franco-allemands, je suis d'accord. Il y a des titillements sur d'autres programmes quand même. Est-ce que vous sentez que les choses avancent aujourd'hui?
La prise de conscience est globale. que ça aille passer.
Ça peut vouloir dire beaucoup de choses.
Que ça aille passer vite, c'est probable.
Alors justement, est-ce qu'il faudrait mettre en place des mesures coercitives pour que ça aille plus vite, pour assurer que les acteurs européens achètent en Europe?
Écoutez, c'est un peu la règle actuellement à Bruxelles, donc de façon à ce que dans les différents règlements qui sortent, liés à ces instruments dont je parlais tout à l'heure, que la préférence européenne soit clairement indiquée et financièrement, je dirais, encouragée. Moi, je pense sur le. Vous citiez le cas de la Corée, mais pourquoi est-ce que les Polonais ont acheté coréen?
Parce que les stocks étaient disponibles tout de suite.
Parce que c'est un pays en économie de guerre. Oui. Depuis 50 ans, la Corée est en guerre. Depuis 50 ans, la Corée a des stocks. Depuis 50 ans, la Corée a des chaînes de production qu'elle peut réactiver, etc., facilement. Qu'est-ce qui a fait que nos amis polonais ont souhaité avoir ça? C'est que nous n'avions pas de stocks. Nous étions dans une autre logique.
Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est important de préciser, mais c'était pas une préférence par rapport au prix, mais en effet par rapport aux stocks disponibles tout de suite.
Un peu les deux, mais vous avez raison, c'était la disponibilité immédiate qui était le prix aussi. Le prix aussi. Oui.
Pascal, pour conclure.
Alors moi, je vais défendre un peu nos industriels. Ils sont pas endormis pendant plusieurs années. Ils sont adaptés aux besoins des armées françaises qui étaient impliquées dans des conflits hybrides, dans des conflits un petit peu disproportionnés.
Combien d'années de disette fondamentalement, Jean-Marc Duquesne là.
Les disettes, ça a commencé avec les dividendes de la paix, c'est les 90.
Hein. Donc 20-25, oui c'est ça. 25.
Oui, mais aujourd'hui, on se rend compte, tout le monde se rend compte, qu'une guerre classique, une guerre conventionnelle, des chars contre des chars, des avions contre des avions, est possible. Donc en deux ans, je trouve que les industriels se sont totalement remis en question sous la pression de l'État, sous la pression des armées, mais les industriels se sont remis en question et ont accéléré, mais de façon considérable, leur capacité de production.
Donc les réquisitions dont parlait éventuellement Emmanuel Macron, a priori, n'auront pas lieu.
C'est un avertissement, c'est une menace, c'est une possibilité que se donne l'État, mais pour l'instant, non, il n'y a pas eu de réquisition dans les entreprises.
Pour l'instant,
Renault ne fabrique pas des chars.
Et on dit que c'est l'industrie automobile qui se prêterait le mieux à ces...
Bien sûr. On voit qu'en Ukraine, quand même, les fabricants de tracteurs, les mécaniciens de tracteurs réparent les canons César.
Ouais. Hein. Et c'est à ces industriels qu'on va donner la parole jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. On sera avec un acteur qui fait des trackers de géolocalisation dans quelques instants sur BFM. Merci
beaucoup,
Jean-Marc
Duquesne. Sans utiliser les satellites, pardon.
Sans utiliser les satellites, qui plus est, absolument. Jean-Marc Duquesne, merci beaucoup, directeur général du J4. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business en direct. Il est 18h32.